Alors, je vais inviter Mathieu à venir me rejoindre à l'avant. Merci, Mathieu. On va tourner ensemble dans Jacques et on va écouter ensemble la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Jacques au chapitre 1, versets 12 à 27, édition Louis II. Jacques au chapitre 1, versets 12 à 27. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde.
Merci Mathieu. En fin de semaine, il y avait une conférence à Montréal pour les jeunes gens. Super intéressant, conférence Paradigme. J'aimerais ça savoir qui était à Paradigme cette fin de semaine. Juste vous lever, s'il vous plaît. Levez-vous ceux qui sont allés à Paradigme. Spécialement ceux qui étaient là samedi, d'accord? Parce que ceux qui étaient là samedi, il faut que vous les spottiez, comme on dit en français. Vous allez avoir une question à leur poser tout à l'heure, OK? Je vous le dis, vous avez spoté, vous allez avoir une question à poser. Merci. Belle conférence, super encourageante, qui visait vraiment à adresser toute la question de la vision du monde selon Dieu. Et pendant la conférence, il y a un invité spécial, secret, qui avait été annoncé. Qui allait apparaître, puis il y avait toutes sortes d'hypothèses qui circulaient, à savoir de qui s'agit-il. Il y avait une rumeur qui circulait que c'était Mario Pelcha qui allait se pointer parce que il a déclaré sa foi en Jésus-Christ et plusieurs d'entre vous connaissez sa foi. Donc il y avait des rumeurs qui circulaient. Mais c'était personnage secret. On avait un nom de code, d'accord, pour le désigner, il s'appelait Mario. OK? Donc, ceux qui étaient en coulisses, tout ça, on parlait de Mario. Est-ce que Mario est arrivé? Oui, il vient d'arriver avec son agent, tout ça. C'est un des humoristes les plus connus au Québec qui, par la grâce de Dieu, en est venu à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Mais je vais garder ce nom-là, il s'appelle Mario. D'accord? Alors, si vous voulez savoir c'est qui, je pense qu'il va falloir que vous alliez voir ces gens-là là-bas. C'est Mario qui s'est pointé. Ça a été un stand-up ovation. C'était vraiment touchant. Il a été super généreux. Il a pris du temps avec nous. Pourquoi je le nomme pas? C'est parce que c'est à lui. C'est à lui qui revient le privilège de partager sa foi et progressivement d'annoncer sa foi autour de lui. Et c'était vraiment... Donc, vous irez voir les jeunes tantôt. D'accord? Moi, je suis enregistré. C'est ça qui arrive. Vous allez les voir. Mais j'ai eu le privilège. J'ai eu le privilège, lorsqu'il est arrivé, c'était pas prévu, des fois j'ai des petits privilèges comme ça, d'être backstage, à l'arrière, dans les loges avec lui, avec son épouse, sa petite fille. Et j'ai eu le privilège de prier pour lui. D'accord? Avant qu'il monte sur l'estrade, il a été super généreux. Ça a été vraiment un beau moment. Très, très agréable. Et puis, un petit peu plus tard, à la fin, après sa présentation, on lui a demandé, si on avait à prier pour vous, pour toi et ta famille, qu'est-ce que tu aurais comme requête de prière? Et très simplement, Mario nous a dit, priez pour que je continue à grandir dans ma foi. Et c'est la même requête de prière que son épouse avait sur son cœur. Alors, priez pour Mario, parce que le Seigneur sait c'est qui, pour qu'il continue à grandir dans sa foi. Vous savez quoi? Commencer la vie chrétienne, c'est une chose. C'est un miracle en soi, n'est-ce pas? Commencer la vie chrétienne. Mais continuer jour après jour, après jour, après jour, à grandir. Ce que la Bible appelle la sanctification, être de plus en plus transformé à l'image de Jésus-Christ. Et persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'au jour où, comme notre frère John Gazdick, un des pionniers vraiment de l'Évangile ici au Québec, qui est entré dans la gloire il y a quelques jours seulement, jusqu'au jour où j'entre dans la présence de mon Seigneur. Et comme le dit notre passage au tout début, verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Le début de la vie chrétienne, c'est une chose. Persévérer et grandir, sans se décourager, sans arrêter et chercher constamment à grandir, c'est toute une autre chose. La semaine dernière et cette semaine, Jacques nous parle du combat qui se trouve au cœur de la vie chrétienne. Ce combat-là ne s'arrête pas au moment où tu deviens chrétien. J'ai des nouvelles pour vous si ce n'était pas déjà clair. Ce combat-là ne fait que se transformer. Il rentre dans une autre dimension, c'est vrai, mais le combat va continuer. La semaine dernière, on a vu ensemble que le cœur du combat se trouve avant tout en nous, en moi, en toi. Ce n'est ni Dieu qui permet des épreuves dans nos vies, n'est-ce pas? On croit dans un Dieu qui est souverain. On peut même aller jusqu'à dire que Dieu ordonne des épreuves dans nos vies. Ce n'est ni Dieu, ni le diable qui est la source de ce combat intérieur, nous dit Jacques. Ce combat-là se situe en chacun d'entre nous. Parce que l'être humain a une nature propre qui le conduit devant l'épreuve à faire des choix bien souvent qui sont malheureux. Et Dieu est là dans toute sa bonté et désire nous voir sortir vainqueurs de ces épreuves. Mais notre nature, qu'on appelle souvent dans la Bible la nature pécheresse, ou pour celui qui est chrétien, la Bible va parler du vieil homme, de la vieille nature, livre un combat à nos meilleures intentions dans l'épreuve. Et on a vu ça ensemble la semaine dernière. On a vu aussi ensemble la semaine dernière que Dieu ne peut pas nous tenter parce qu'il est d'une autre nature. Fondamentalement, essentiellement, Dieu par nature est bon, juste et saint. Et donc, toute vision de Dieu qui serait une espèce de vision machiavélique. Et soyons honnêtes, si vous n'avez jamais vu Dieu comme celui qui cruellement peut-être vient vous tenter dans des moments difficiles, c'est probablement que vous n'avez pas encore souffert suffisamment. Parce qu'il y a des moments où la souffrance devient tellement grande que comme Job, on a envie d'appeler Dieu en procès et dire on va s'expliquer quand même une fois pour toutes, Seigneur. Et la souffrance peut nous conduire là. Mais on a vu la semaine dernière toute vision de Dieu qui nous amène à voir Dieu comme un être machiavélique qui est là et qui place des pièges devant nous et qui attend juste de nous voir tomber. Ça ne fonctionne pas. C'est une vision complètement erronée de Dieu. Par nature, Dieu ne peut pas être tenté de nous tenter. Il ne peut pas le faire. Et si Dieu place des épreuves devant nous, c'est simplement qu'il veut nous voir grandir, il veut nous voir faire le bon choix. Le diable, au contraire, vient et prend ces épreuves-là que Dieu permet, ordonne, place devant nous et vient essayer de leur donner une nouvelle interprétation. Il nous suggère que peut-être que Dieu finalement n'est pas si bon que ça. Puis Dieu veut nous entraîner ailleurs. Notre chair, notre vieil homme, notre nature pécheresse veut nous tenter aussi d'interpréter les choses ainsi. Mais Dieu est toujours là, dans ton camp, pour dire « Fais le bon choix. Je suis là. Oui, j'ai placé l'épreuve. Elle est là pour t'amener à une prochaine étape de sanctification. Elle est là pour que tu grandisses. » C'est pour ça que Jacques dit que toutes les épreuves, la grande diversité d'épreuves, devrait être pour le chrétien une source de joie complète. Et Jean connaissait les épreuves de la vie. Mais avec sagesse et avec expérience, il dit, toutes les épreuves de la vie devraient être pour le chrétien une source de joie complète parce qu'elles viennent d'un Dieu qui est bon, un Dieu qui ne change pas. Sa bonté s'est exprimée avec une parfaite excellence, si je peux m'exprimer comme ça, à travers la croix. Après la croix de Jésus-Christ, là où le Fils de Dieu vient s'offrir en sacrifice, comment pourrais-je douter de la bonté de Dieu? Seul un fou va douter de la bonté de Dieu, mais nous sommes fous. Et donc facilement, facilement, nos cœurs se mettent à douter, à défaillir, et on commence à douter de celui qui ne change pas, celui qui était bon, qui est bon, qui le sera toujours. La semaine dernière, on a vu qu'on avait cette nature-là, et on a vu la nature de Dieu, et on a terminé la semaine dernière en disant ceci. L'être humain, pour pouvoir sortir victorieux des combats de la vie, a besoin que Dieu, dans sa bonté, vienne lui donner un peu de lui-même. Vienne créer en nous une nouvelle nature et qu'il vienne nous accompagner. En d'autres mots, l'espoir réel de l'être humain est que Dieu vienne semer en lui un peu de lui-même. L'espoir réel de l'être humain est que Dieu vienne opérer une transformation extrême en lui donnant une nature nouvelle et en le recréant à partir de lui. Qu'il vienne me donner une nouvelle nature. Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu et Dieu veut que tous les êtres humains deviennent maintenant une nouvelle créature de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Chacun des êtres humains sur la terre sont créatures de Dieu, créés à l'image de Dieu, des êtres magnifiques et merveilleux à bien des égards. Mais la nature même de ce combat qui est en nous, cette nature déchue, pécheresse, vieil homme, appelez-le comme vous voulez, la Bible a plein de synonymes, nécessite qu'après avoir été créé par Dieu, naissant du sein de ma mère, je naisse de nouveau et que je devienne une nouvelle créature et que Dieu me recrée en venant implanter, semer en moi une nature nouvelle. Dieu est bon, il est saint, il est juste et Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre bonheur et il veut nous amener avec lui dans l'éternité. Oui, pour célébrer sa gloire, mais pour que nous soyons heureux dans la présence de sa gloire. Et pour cela, il doit semer en nous une nouvelle nature. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Ce matin, on va voir ensemble que la nature du combat se trouve en nous. Dieu nous donne une nouvelle nature pour livrer le combat en laissant sa parole grandir en nous. Et c'est cette deuxième portion-là surtout qu'on va voir ensemble ce matin. Dieu nous donne une nouvelle nature pour livrer le combat en laissant sa parole grandir en nous. Alors très brièvement, je vais passer sur le premier point ce matin. La parole qui donne la vie, mais elle est fondamentale. Parce que certains d'entre vous ne pourront jamais vivre le deuxième et le troisième point qu'on va voir ensemble. Parce que cette parole de vérité, cette parole de vie n'a pas été semée en vous. La parole qui donne la vie. Deuxièmement, ensemble, on va voir la parole qui grandit en moi. Et enfin, on va terminer la portion de ce passage ce matin avec l'image de la maturité dans la foi. Comment est-ce que Jacques voit un chrétien qui est né de nouveau et qui a vu cette parole-là qui a été semée en lui grandir? Quelle est son image à lui de la maturité? On va voir ensemble ces trois éléments-là ce matin. Commençons par le début, verset 18. Regardez avec moi dans vos Bibles, s'il vous plaît. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Je l'ai mentionné, je vais le redire souvent. Des fois, Jacques est... Il y a un langage qui est moins limpide que Paul. Il est un petit peu moins facile à suivre. On a l'impression que son propos, son fil conducteur est moins évident. Peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il passe d'un principe de sagesse à une autre idée. Mais en réalité, il est là, le fil conducteur. Et ce que Jacques est en train de nous parler ici, il est en train de nous parler de cette naissance, de cette nouvelle naissance qui, ailleurs Jésus va l'appeler ainsi, la nouvelle naissance, si un homme ne naît de nouveau. Ailleurs, il va être appelé par Paul la régénération, un cœur nouveau qui nous est donné. Bien ici, Jacques parle de ça, il dit, il nous a engendrés, il nous a fait naître de nouveau, selon sa volonté, par la parole de vérité. Quelle est cette parole de vérité qui nous est donnée? On a commencé à le voir ensemble la semaine dernière. Laissez-moi juste réviser ça très rapidement. Cette parole de vérité, c'est la parole de l'Évangile qui doit être semée en nous. Et c'est Dieu qui vient la semer. C'est pas possible pour l'être humain qui vit les combats de la vie, qui est frustré. Et honnêtement, toute l'histoire de ma conversion à moi se passe juste à cet endroit-là où... Élevé dans une église évangélique, ici, dans l'église ici, je connaissais la parole de Dieu. Écoutez, avant ma conversion, je connaissais la parole de Dieu mieux que la majorité des gens dans l'église qui avaient 4-5 ans de vie chrétienne, parce que j'avais baigné là-dedans, j'avais lu la Bible en bande dessinée 10 fois, je connaissais toutes les histoires, je connaissais l'Évangile sur le bout de mes doigts, et pourtant, je luttais seul avec ma vieille nature. Je luttais seul avec mon vieil homme. Parce que cette semence qu'on m'avait donnée n'avait pas été semée dans mon cœur. Elle ne s'était pas rendue là parce que c'est Dieu qui le fait. Et c'est ça qu'il nous dit au verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Et donc Dieu est le facteur déterminant dans toute nouvelle naissance, dans toute conversion. Et il vient semer en nous une parole de vérité. Quelle est cette parole-là? On a vu ensemble rapidement la semaine dernière. Que c'est l'Évangile. Je vous lis deux passages dans 1 Pierre 1:23. 1 Pierre 1, je m'excuse, versets 23 et 25. Puisque vous avez été régénérés, nés de nouveau, nouveau cœur, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et moi, je croyais que c'était l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui produisait cette régénération-là. Pierre nous dit, oui, mais attends un peu, cette parole-là, l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu, verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alors, il y a quelque chose de spécial que Jacques fait dans le passage ici. Il y a un moment où tu es en train de lire, puis... Il parle de parole de Dieu, parole de vérité, puis il est en train de parler spécifiquement du message de l'Évangile, qui se résume en quelques phrases. Jésus-Christ, Fils de Dieu, incarné sur la terre, vient, parfait, se livre lui-même volontairement, meurt sur la croix, pour nos péchés, sacrifice parfait, sans tâche. Ressuscite d'entre les morts le troisième jour, parce que Dieu a agréé son sacrifice. Chaque homme, chaque femme qui lève les yeux vers la croix, place sa foi dans son sacrifice plutôt qu'en lui-même pour être déclaré juste, est déclaré juste par un acte de pure grâce. La justice de Christ m'est imputée, m'est donnée. L'Évangile. Ici, au début, Jacques est en train de parler de la parole de vérité, c'est de ça dont il parle. Et progressivement, quand on va avancer dans le texte, il va parler de toutes les Écritures. Soyez attentifs, vous allez voir, si vous lisez le passage, vous allez voir, c'est super important de le saisir. Parce que dans un certain sens, Jacques est en train de me dire, tout ça ici, là, c'est l'Évangile. La Bible commence à être vraiment, 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 vraiment excitante quand tu commences à comprendre que tout ce livre-là, 66 livres de la Bible écrits par 40 auteurs différents sur une grande période de temps, environ 400 ans, raconte une seule histoire. L'Évangile, la bonne nouvelle du salut que Dieu vient donner aux hommes. Là, la Bible commence à être vraiment excitante quand tu commences à catcher ça là-dedans. Et Jacques nous dit, mais tout ça, c'est l'Évangile dans un certain sens. Alors que Jacques est en train de nous dire ici que la question la plus importante, avant de commencer à chercher à vivre la vie chrétienne, à appliquer la vie chrétienne, à marcher dans la vie chrétienne, la première est de savoir si tu as reçu cette semence. Si tu en doutes, probablement que tu ne l'as pas reçu. Je dis probablement, d'accord? Parce que des fois, il y en a qui doutent d'eux-mêmes jusqu'à ce que mort s'en suive. Puis on a besoin d'aller avec eux dans les Écritures, parce que c'est des éternels douteux. Mais si tu en doutes, probablement que tu ne l'as pas reçu. Parce que celui qui est né de nouveau a a l'Esprit de Dieu en lui qui fait une espèce d'écho dans son cœur. Et des fois, j'ai des doutes parce que je regarde ma vie chrétienne puis je dis, tableau, il me semble que ça devrait être plus haute, mon affaire. Mais en même temps, quand je vais au fond de mon cœur, je sais que j'ai un Père au ciel qui veille sur moi. Et cette conviction-là ne vient pas du fait que je me dis, on est tous hommes, tous frères et sœurs sur la terre, il y a certainement un Père quelque part. Non, c'est fondé sur une parole de salut, la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ qui a été semée dans mon cœur. Et un jour, des fois c'est très défini, pour d'autres c'est confus. Dernièrement, j'ai posé la question à une vingtaine de pasteurs. T'es-tu capable de me dire l'heure, le jour, la minute où paf, ça s'est passé chez toi? 60% m'ont dit non, c'est comme une période, je ne sais pas exactement. De plus en plus je lisais, la parole devenait vivante. Il y avait une vérité qui s'incrustait de plus en plus en moi, une conviction de plus en plus forte. D'autres peuvent identifier l'heure, le jour, la minute où, paf, Dieu a illuminé les yeux de leur cœur. Ce livre-là qui était théorie, aspiration, espoir est devenu vie en eux. Ce message-là, le message de l'Évangile, c'est devenu leur salut à eux, leur sauveur à eux, leur Père céleste à eux. Mais ce que Jacques me dit ici, c'est que je ne pourrai pas vivre la puissance de la parole de Dieu dans ma vie pour être transformée, la victoire dans les combats, je ne pourrai pas le vivre si je ne peux pas répondre affirmativement, avec certitude, avec conviction, que j'ai reçu cette semence-là en moi. La bonne nouvelle de l'Évangile qui est venue bouleverser ma vision du monde, ma vision de moi-même, qui m'a aidé à réaliser que c'est par grâce que je suis sauvé. Et donc, les combats de tous les jours ne sont pas ceux qui déterminent mon salut. Ce sont ceux qui déterminent ma sanctification, ma transformation à l'image de Christ. Et mon salut est assuré par le sacrifice de Jésus-Christ. Cette question-là est la plus importante, d'accord? J'insiste dessus, je sais, la majorité d'entre vous, vous connaissez déjà la réponse. Vous dites, OK, Yannick, on passe à la suite, mais come on! C'est la plus importante. Et si c'est quelque chose de confus pour toi, fais-nous un cadeau. Fais-moi un cadeau. Accroche-moi tantôt. Dis-moi, Yannick, il faut que je bouleverse ton agenda. J'ai besoin d'une heure cette semaine avec toi. Il faut que tu me racontes l'histoire de l'Évangile. Accroche n'importe qui ici. Écoute, en braillant, on va trouver du temps pour toi. Pour nous, il n'y a rien de plus glorieux. Amen. Il n'y a rien de plus glorieux que d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. On veut le faire par la grâce de Dieu tous les jours, chaque semaine. Constamment, c'est pour ça qu'on est là. Pour aller annoncer l'Évangile de Jésus-Christ à cette ville de Longueuil, ce message de grâce et de compassion. Et donc, c'est la première question. Est-ce que tu as reçu cette semence pour qu'elle puisse croître ensuite en toi? Maintenant, quelle est la requête de prière de Mario? C'est quoi sa requête de prière à Mario? Qu'il continue à grandir. Et on arrive dans cette deuxième portion du passage avec Jacques, où ça va devenir un peu plus concret pour nous maintenant, parce que avouons-le, bien souvent même, cette semaine, on avait un conférencier qui s'appelle Ed Stetzer, super intéressant, il m'a provoqué. Parce qu'il dit, voici ce qu'on fait régulièrement dans notre église, on a un petit sondage qu'on fait avec toute l'assemblée, une fois par année, quelque chose comme ça, et toutes les questions visent à répondre à une seule question. Dans la dernière année, est-ce que tu estimes qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie pour que tu ressembles davantage à Jésus-Christ? La première fois qu'il a fait le sondage avec son église, 60% de l'église a dit non. Je suis encore en train de me demander si on va faire le sondage ensemble. Avouons-le, c'est pas simple grandir dans la foi. Ça va pas de soi, c'est pas si simple que ça. Et Jacques en est conscient, et c'est pour ça qu'il adresse cette question-là. La parole qui grandit en moi. La parole qui grandit en moi. Regardez avec moi le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça, c'est du Jacques tout craché. T'as l'impression qu'il vient de te sortir un proverbe du livre des proverbes, que ça n'a pas rapport pantoute. C'est quoi qu'il fait là? Il n'a pas perdu son fil, lui. Oui! Indirectement, ta femme pourrait te citer ça cette semaine, tu sais, dans un temps de couple. Ainsi, mon cher mari, sache-le, hein, que tout homme, il n'a pas dit la femme, que tout homme soit prompt à écouter, l'en parler, l'en se mettre en colère. Mais non, il y a un contexte à ça. Et Jacques n'a pas perdu le fil conducteur de son idée du tout. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Et donc, avant de nous parler de mise en pratique, ce que Paul va nous dire, c'est encore faut-il savoir écouter cette parole qui a été semée en nous. C'est intéressant, souvent lorsqu'on parle de grandir dans la foi, on dit, mais regarde, le B.A.B.A., si regarde, tu as un livre, il est extraordinaire, tu en as 3 copies chez vous, ça ne sert pas juste pour tenir le reste des livres en place, il faut que tu aies régulièrement là-dedans, tu sais. Puis tu viens à l'église, puis tu écoutes des messages, puis tu plonges, puis tu médites les Écritures et tu fais tout ça. Mais vous savez quoi? C'est possible de faire tout ça et ne jamais écouter la parole de Dieu? C'est de ça ici que Jacques est en train de parler. Il n'est pas en train de dire, faut que tu fasses ton culte personnel chaque matin. Il prend pour acquis qu'on cherche à aller dans les Écritures. Mais ici, il parle de l'attitude du cœur qui m'amène à vraiment écouter la parole de Dieu. Dans les valeurs qu'on a identifiées où on veut grandir comme Église, l'Église de l'Espoir, on a dit qu'on veut être une Église qui est à l'écoute de Dieu, qui cherche chaque jour, qui cherche constamment la plénitude du Saint-Esprit. Alors, il y a 2 choses ici dans Jacques. C'est super important là, ce que je vous dis. Il y a 2 choses dans Jacques. Il y a cette parole qui a été semée en moi. En réalité, je pourrais aussi dire que c'est l'Esprit Saint qui a été semé en moi. Parce que l'épée de l'Esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et donc, cette parole de vérité a été semée en moi et elle fait écho. L'Esprit de Dieu fait écho à la parole écrite de Dieu, à celle qu'on entend dans les messages, à celle qu'on discute, à celle qu'on étudie, à celle qu'on analyse, celle qui est là à l'extérieur. Ce livre-là, il y a déjà en moi l'Esprit Saint qui est venu semer cette parole de vérité-là en moi. Je le sais parce que ce livre-là est vivant pour moi. Je sais parce que des fois, j'écoute un message, puis l'Esprit de Dieu vient saisir mon cœur d'une manière particulière. Ma vie est bouleversée, je ne suis plus la même personne. En 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, si le pasteur est long comme moi, boum! La vie est transformée. Puis c'est pas de la pensée positive. Ah, bon principe, je prends ça en note, on va commencer à faire ça. Non, il y a quelque chose à l'intérieur qui a résonné avec ce qui a été apporté parce que l'Esprit de Dieu est venu. Parler d'une manière puissante. J'ai écouté, j'ai entendu. Et Jean dit quelque chose de super important ici. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous savez comment est-ce qu'on est, hein? Lorsqu'on commence à être en colère, plus capable d'écouter? C'est vrai dans tous nos rapports humains. Tout le long, Jacques nous parle de patience, de supporter, d'aller demander de la sagesse à Dieu à travers les épreuves. Et ce qu'il est en train de me dire ici, c'est, écoute Yannick, la parole a été semée en toi, mais il va y avoir des épreuves dans ta vie. Comment est-ce que tu vas répondre à cela? Est-ce que tu vas être prompt à écouter? Est-ce que tu vas te taire? Est-ce que tu vas laisser la colère dans toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de situations venir l'emporter sur toi? Parce que, écoutez, vous le savez pareil comme moi, quand quelque part l'irritation monte en nous, on commence à être en colère, c'est pas compliqué, on devient stupide. On devient stupide. Puis si Dieu t'a donné un petit peu de bagou comme moi, puis que c'est facile d'argumenter, t'es stupide longtemps, tu plantes tout le monde autour de toi, puis à un moment donné, tout le monde se met à broyer, puis là tu te dis, mais je suis bien colon. Là, t'es désarmé. Là. Puis là, tu réalises que ça fait une demi-heure que t'écoutes pas. Et on fait ça dans notre relation avec Dieu aussi. On fait ça dans les épreuves de la vie. La parole a été semée en moi. J'arrive dans une épreuve de la vie. Je suis au travail. Il y a une situation qui m'irrite, qui me choque, qui vient me chercher. Et j'arrête d'écouter. L'Esprit est en train de me rappeler sa parole, me rappeler où je dois aller, me rappeler comment je dois agir, comment je dois répondre, qu'est-ce que je devrais faire. Mais à ce moment-là, à cause de la colère, je cesse d'écouter Dieu. Et cette parole que Dieu veut faire germer en moi, je cesse de l'écouter. Bien, Jacques dit au contraire, l'Esprit de Christ habite en toi. Vous savez que le Saint-Esprit est appelé ailleurs l'Esprit de Christ? Et Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez sur vous mon joug, mon fardeau, car il est doux et léger, car je suis doux et humble de cœur. » Et ce que Jacques nous dit ici, au verset 21, C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur. Et c'est là, c'est important de remarquer ça. Recevez avec douceur quoi? La preach du dimanche matin? Mais oui et non! Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Elle est déjà en vous. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, dans un certain sens, j'ai plus rien à t'enseigner. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est ce que les prophètes disaient lorsqu'ils disaient « Ils n'auront plus besoin d'enseignants ». C'est de ça qu'ils parlaient. Oui, je peux vous aider à comprendre des choses dans les Écritures, mais c'est l'Esprit qui est en vous qui prend ces choses-là, les rend vivantes en vous. Et donc, votre relation avec Dieu, bien avant d'être une relation avec l'estrade ou avec le prédicateur ou avec celui qui enseigne, c'est une relation avec l'Esprit de Dieu. C'est une disposition de cœur. Et cela se vit au quotidien, chaque matin, quand je me lève chaque soir, devant les épreuves. Je décide de renoncer aux souillures, de renoncer au débordement de malice, à ce que ce vieil homme, cette vieille nature veut faire jaillir en moi. Je décide d'y renoncer pour dire non, Seigneur. Je veux recevoir avec douceur ce que ton esprit veut faire en moi ici maintenant. Là, dans mon épreuve. Et donc, des fois, ça va être à travers un message, des fois, ça va être à travers la méditation des Écritures, la lecture des Écritures, des fois, ça va être un frère, une sœur qui va venir, qui va vous rappeler, donc, la parole de Dieu. Mais parce que Dieu a déjà semé sa parole en moi, j'entends cela. L'Esprit fait écho à cela. Nous voulons être une Église qui écoute Dieu et qui cherche constamment la plénitude de l'Esprit de Dieu, à marcher dans la plénitude de l'Esprit de Dieu, à garder cet esprit de douceur qui renonce à toute souillure, à tout débordement de malice, à la colère, qui renonce à parler. Quand tu es dans une épreuve, il y a un dialogue intérieur, il y a un dialogue extérieur, tu veux contrôler la situation, tu veux expliquer à tout le monde comment ils devraient réagir face à toi. Ferme-la. Ferme-la. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Tais-toi. Tais-toi. Écoute, l'Esprit est en train de te parler. L'Esprit est en train de te parler, là. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous savez de quoi je parle. Et on est là, puis on dit, Seigneur, Seigneur, je suis tanné de lutter dans des combats, des douleurs. J'ai besoin que tu me remplisses de ton esprit, Seigneur. Mais ça se passe à genoux, dans une attitude de douceur, où je dis, Seigneur, je veux plus contrôler la patente. Je veux plus donner des longs discours, je ne veux plus t'expliquer ce que tu devrais faire avec ma vie, je veux laisser ton esprit qui habite en moi venir prendre cette parole et la faire grandir en moi. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça que vous voulez dans les épreuves auxquelles vous faites face? Cette semaine, vous allez faire face à 253 000 épreuves. J'ai fait la démonstration la semaine dernière, en quelques heures, combien d'épreuves je pouvais identifier juste moi avec ce que je pouvais percevoir. Je vous le dis, il y en a plein qui vous attendent cette semaine. Peut-être que je suis déjà une épreuve dans votre vie. Écoutez l'esprit qui vous dit d'écouter. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Voir cette parole qui a été semée en vous grandir pour vous conduire dans la maturité. C'est ça qu'on veut. À être prompt à écouter, puis à chercher à appliquer sa parole. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Si vous regardez avec moi le verset 25, il dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, à celui qui n'a pas une nouvelle nature, celui qui n'a pas reçu cette parole de vérité, la loi est un fardeau incroyable parce qu'il pense qu'il doit être sur la coche à tous les jours. Puis c'est juste quand il est sur la coche, quand il a réussi à ne pas pécher. » Bravo s'il réussit à faire ça une heure ou une journée, que là, il peut se dire, bon, peut-être que... Et donc, la loi devient supportable. C'est ça que Paul nous dit. Hein? La loi nous montre qu'on est pécheur. C'est un docteur qui nous montre qu'on est pécheur. Mais à celui qui a saisi la grâce, ça devient un guide. Je sais que je ne l'aurai pas toujours parfaitement, mais c'est toujours le guide qui vient réformer ma pensée, qui vient m'éclairer. Donc oui, quotidiennement, je veux plonger les regards dans cette loi parfaite, cette loi de liberté, parce qu'elle me conduit dans la liberté. L'Esprit qui est en moi me dit, regarde, marche selon sa parole, tu vas être libre, tu vas être heureux. Et c'est ce qu'on veut apprendre ensemble. Maintenant, Jacques est un homme d'expérience. Jacques est un homme d'expérience et il savait qu'un jour, il allait y avoir des églises baptistes qui allaient être fondées. Puis dans ces églises-là, les gens allaient dire, nous, on est des gens du livre. T'sais. Nous, on a des cours bibliques, il y a plein de cours bibliques. On étudie, on connaît la doctrine. Nous, on peut sortir ça n'importe quand. Schlack, on peut donner des réponses à n'importe qui. Il savait qu'un jour, des églises baptistes allaient être fondées. Et donc, Jacques a écrit ce qui suit pour les églises baptistes. D'accord? Et pour d'autres mondes aussi, j'imagine. Dans la vision de Jacques, comment est-ce que je sais que j'écoute la parole de Dieu? Comment est-ce que je sais que je la reçois avec douceur? Comment? En la mettant en pratique. En la mettant en pratique. Et après nous avoir dit d'écouter, d'être très attentif à la parole de Dieu, d'être réceptif à ce que l'Esprit veut faire avec la parole en moi. Il dit au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Combien de fois j'ai écouté un de mes prédicateurs préférés au volant de l'auto, puis wow! Des bons orateurs, mais plus que ça encore, ému là. Ou combien de fois j'ai fait mon petit culte personnel le matin dans mon bureau, puis... Écoute, c'est sûr, la première chose que je vais dire à Esther quand je vais la voir, c'est une femme merveilleuse. Puis quand je vais voir mes enfants, je vais leur dire, Jésus t'aime, puis moi aussi, demande-moi ce que tu veux. Puis ça a pris quoi? À peu près rien pour que toutes mes bonnes intentions partent comme du vent. Combien de fois? Et donc, Jacques est en train de nous dire ici, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Jacques est celui qui n'accepte pas seulement une profession de foi. Si Jacques était ici, il vous dirait, c'est pas parce que vous venez ici chaque dimanche que ça veut dire quoi que ce soit sur votre spiritualité. C'est pas parce que tu pourrais me réciter la Bible au complet que ça veut dire quoi que ce soit sur la spiritualité. C'est pas parce que tu es capable de pourfendre toutes les hérésies, toutes les erreurs, tu as un discernement super aiguisé. J'ai juste à passer quelques heures avec toi, passer en entrevue les gens avec qui tu habites à la semaine longue et je vais en savoir beaucoup plus sur ta spiritualité que toutes les réponses que tu pourrais donner à un examen théorique. Et je vais savoir si cette parole que tu professes connaître, tu la connais vraiment. C'est ça que Jacques nous dirait. C'est ça qu'il nous dirait. Et donc, lorsqu'on arrive à la fin de ce passage-là, encore une fois, il a de l'air un peu comme décousu, mais il n'est pas du tout. Voyez-vous, c'est comme si au verset 18, Jacques nous parle de la naissance, la nouvelle naissance du début de la vie chrétienne. Puis des versets 19 à 25, il nous parle de la maturation, la croissance, comment est-ce qu'on grandit. Et au verset 26-27, alors qu'il se prépare à devenir super pratique dans les autres chapitres, il dit, on fait une pause. À celui qui a fait tout ça, là, tout le chapitre 1, là, je vais vous faire une description de cette personne-là. Vous êtes que vous êtes religieux, que vous avez une relation avec Dieu. À celui qui vit tout ça, là, je vais vous brosser un tableau, puis vous vous examinerez à la lumière de cela. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, ça veut dire être en relation avec Dieu. Jacques prend toujours le terme religion dans le meilleur sens que vous pouvez lui trouver, d'accord? Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Encore une fois, l'idée de la langue, qui est plus comme dans le quotidien, mais qui va aussi dans cette relation où on veut écouter Dieu, la religion pure et sans tache, c'est mémoriser les Écritures, c'est suivre des cours de Sambec, c'est être capable de prêcher la parole de Dieu avec éloquence, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves à eux. Sors de tes épreuves à toi, considère chacune de tes épreuves à toi comme un sujet de joie complète, et alors tu vas pouvoir commencer à être attentif aux épreuves que ces gens-là, qui eux souffrent souvent bien plus que toi, sont en train de vivre et tu vas pouvoir aller les supporter, les encourager, et préserve-toi des souillures du monde. Je vous ai dit, lorsqu'on a commencé Jacques, trois organes, n'est-ce pas? La bouche, le cœur et les mains. Et les trois sont là. Les trois sont là. Parce que pour Jacques, le chrétien mature, c'est quelqu'un qui est édifiant, qui a appris à se taire, à écouter la parole et à bénir avec sa langue, plutôt que de détruire avec sa langue. C'est quelqu'un qui sait garder son cœur des souillures du monde, qui a appris à être à l'écoute de l'Esprit de Dieu devant toutes les épreuves de la vie, épreuves qui deviennent souvent des tentations, comme on l'a dit la semaine dernière, mais qui a appris à écouter l'Esprit de Dieu et à chasser ces souillures-là de son cœur, à renoncer à toutes sortes de malices qui veut constamment revenir. Le combat demeure jusqu'à la fin. Et pour lui, la maturité chrétienne, c'est certainement pas d'être des théoriciens. Et c'est pour ça qu'on veut, comme Église, une des valeurs dans laquelle on veut grandir, c'est qu'on veut être une Église accueillante pour les démunis, pour les délaissés, pour ceux qui souffrent. Parce que lorsque ça va être une seconde nature pour nous de faire ça, on va savoir que notre nouvelle nature a grandi en nous vraiment. Et qu'on n'est pas des gens religieux qui ont toutes les réponses, mais nous sommes des gens qui vivons la parole de Dieu. Amen. On va passer un temps de louange avec quelques chants ensemble. Mais revenez avec moi dans le texte, s'il vous plaît, avant qu'on prie. Revenez avec moi au verset 12. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, il y a une espèce de tension qui apparaît. On voit un Dieu qui est grand, qui est plus grand que nature, puis on découvre sa gloire, sa majesté, puis constamment dans la Bible, il nous est rappelé que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Puis en même temps, on va vers plein de passages qui nous parlent d'être heureux, de bonheur, et des fois, il y a des prédicateurs qui sont tentés de prêcher seulement un, seulement l'autre. On veut des églises où on s'oublie nous-mêmes, puis on vit pour la gloire de Dieu, où on veut des églises qui sont sensibles à ce qu'on ressent comme besoin, puis oui, Dieu veut ton bonheur. La vérité, c'est que les deux sont absolument présents dans la parole de Dieu, parce que les deux vont de pair. Le bonheur de l'être humain se trouve lorsqu'il prend plaisir dans la gloire de Dieu. Et au verset 12, Jacques a commencé ce passage en disant « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Cette couronne de vie, il en est question dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 2, verset 10. Et c'est Jésus qui parle, le Seigneur. Et il dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Voyez-vous, chers amis, si nous souffrons à travers les épreuves, si nous écoutons l'Esprit de Dieu travailler en nous, c'est parce que nous cherchons le bonheur sur cette terre et dans l'éternité. Et Jacques est en train de nous équiper ici à devenir des vrais chrétiens matures qui ne sont pas simplement là en parole et en théorie et qui le reste de la semaine passent leur semaine à douter de la puissance de la parole de Dieu pour qu'elle vienne faire une différence dans l'épreuve de vos vies. Et ça, c'est définitivement un des plus grands combats de la vie chrétienne. Quand on en parle à l'Église, c'est beau en théorie, copain, mais ça fait 10 ans que je suis chrétien, puis je vois pas comment ça s'applique. Jacques ne veut pas cela pour nous. Ou pire encore, des chrétiens qui sont des chrétiens du dimanche, mais leurs enfants les connaissent très bien. Un jour, ils quitteront la maison en disant « ce sont des crétins ». Parce que ce qu'ils prêchent, je ne les ai jamais vus le vivre à la maison. Non, Jacques veut au contraire que cette parole qui a été semée en toi vienne grandir en toi, qu'elle vienne te transformer. Et les épreuves que tu juges insupportables actuellement, mais continue à prier pour que Dieu les enlève. Mais prie aussi pour que Dieu t'apprenne à l'écouter, à écouter son esprit te parler. Afin que par sa puissance, tu en viennes à considérer toutes les épreuves, la grande diversité d'épreuves dans ta vie, comme une source de joie complète. Parce que tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes l'Esprit de Dieu, et tu grandis. Et ta vie chrétienne devient de plus en plus intègre, à chaque heure, à chaque moment, à chaque instant. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi. On vient devant toi, Seigneur, parce que je n'ai pas fait profession de foi en croyant dans un petit Jésus qui serait une fête folklorique du temps des fêtes. Je ne suis pas venu à toi, Seigneur, parce que je cherchais des bons principes de vie. Mes parents m'en avaient donné plein de bons principes, Seigneur. Je ne suis pas venu à toi, Seigneur Jésus, parce que j'étais vraiment juste mal pris puis j'avais quelqu'un qui me sortirait du trouble. Seigneur Jésus, je suis venu à toi parce que j'ai reconnu en toi la vie, le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu à toi, Seigneur Jésus, parce que j'ai cru dans ta résurrection et que ta résurrection impliquait la mienne, Seigneur. Je ne suis pas venu à toi, Seigneur, simplement pour dire « Waouh, Jésus est magnifique ». Je suis venu à toi, Seigneur Jésus, pour dire « Waouh, Jésus est magnifique en moi ». Et que les gens autour de moi non pas soient impressionnés par moi, mais viennent simplement voir une vie différente, grandir, se former en moi, jaillir et déborder. Afin que dans mon cœur, dans mon âme, Seigneur, je sois un être transformé. Seigneur, je te prie pour ceux et celles ici ce matin qui n'ont pas reçu cette semence même en eux. Ils luttent et ils rament dans ce monde, dans cette vie, sans vraiment savoir comment sortir victorieux de ce combat, avec ce sentiment d'être seul avec eux-mêmes. Peut-être te résistent-ils depuis longtemps. Seigneur, dans ta grâce, selon ta volonté, viens semer en eux cette parole de vérité. Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous qui sont découragés, doutent de ta puissance sans jamais se l'avouer, mais doutent de ta puissance, Seigneur. Remplis de colère et d'amertume devant les épreuves de la vie, ils sont retournés vers leurs idoles, vers leurs péchés passés, Seigneur, et tentent à coups de soubresauts de se relever un moment, une semaine, une journée, une heure, quelques grosses larmes, sans jamais voir cette parole grandir en eux, passent année après année sans pouvoir regarder en arrière et dire « Waouh, Dieu me transforme! » Seigneur, je crois profondément dans mon cœur que ce sont les plus misérables des hommes et des femmes, parce qu'ils ont connu et ils ont goûté sans en jouir quotidiennement, Seigneur. Et par ta grâce, je peux dire, ce n'est pas mon expérience. Parfois, ça l'a été, mais ce n'est pas mon expérience, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur Jésus, une église qui écoute Dieu, qui écoute ta parole, qui cherche quotidiennement à marcher dans la plénitude de ton esprit. Enseigne-nous à écouter avec douceur ta parole, Seigneur. Et fais de nous, Seigneur, des chrétiens qui vivront avec une éthique, un amour complètement révolutionnaire, Seigneur. Qu'on puisse aller vers ceux qui traversent des épreuves aussi et être les mains, le cœur et la bouche de Jésus pour eux. C'est en son précieux nom que nous te prions, Père. Amen.